Alors, peut-être qu'avant de finir d'expliquer le texte de Butler sur la parodie, peut-être que ce serait sage de, que vous posiez des questions s'il y en a, parce que comme on va finir à 15h30, et après j'ai un train assez rapidement après, comme je veux que vous ayez, que vous puissiez poser des questions si vous en avez, s'il y en a, hein, s'il n'y en a pas... On continue, mais peut-être pour éviter que je reporte trop et que du coup, s'il y a des questions sur ce qu'on a vu ce matin ou même hier, profitez-en et après on reviendra au texte de Butler et puis je développerai un dernier point, même si bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Oui. Oui, alors en fait, il me semble que. Comment dire ça? Justement, le texte qu'on a vu de Foucault sur le pouvoir, on l'a vu un peu rapidement, mais. Comment dire? Je pense que c'est un texte assez important parce que il y a quand même cette idée chez Foucault, ce que reprend Butler, que. Le pouvoir est une sorte de matrice qui se différencie et donc n'est pas un pôle extérieur qui agirait par contrainte sur nous-mêmes. Du coup, je pense que cette anthropologie, entre guillemets anthropologie, est quand même une anthropologie où il y a une certaine place donnée à la liberté et au désir, mais... un désir et une liberté qui sont toujours déjà pris dans des rapports de pouvoir, qui sont jamais chimiquement purs, si je puis dire. Et que ce qui n'est pas inintéressant, parce que nous, on peut avoir aussi un peu l'extrême inverse, une sorte de naïveté personnaliste ou individualiste, de dire « moi, je suis libre, je suis totalement... » sans influence, enfin bon, donc je ne dis pas qu'on pense ça forcément, mais donc il me semble que là, il y a effectivement liberté et désir, ça, d'ailleurs dans ses textes, Butler parle du désir sexuel, etc., donc elle ne nie pas du tout le désir, elle ne nie pas, comment dire, sur le désir, ok. Sur la liberté, ça paraît plus compliqué parce qu'évidemment, si nous on comprend la liberté comme une faculté, comme une propriété de la volonté qui est une faculté de l'âme, bon, ça évidemment, c'est pas dans ce sens-là qu'elle peut utiliser le mot liberté. Donc je pense que la liberté, dans l'optique de Foucault, de Butler et de tous ces gens-là, c'est jamais vu comme l'expression d'une causalité personnelle. Ça, je crois qu'effectivement... Enfin, s'ils pensent ça, ils se contredisent gravement. Je pense pas. Donc, ça peut pas être une cause... un exercice d'une causalité personnelle. Par contre, je pense que à partir du moment où je conçois tout comme un rapport de force, c'est dans la mesure où je prends conscience... de tous ces rapports de force qui agissent à mon insu et qui en fait sont comme des matrices de mon comportement mais aussi de ma personne vue comme personnage, hein, pas de ma personne substantielle, alors dans ce cas-là, je peux retrouver ce que j'ai appelé ce matin une sorte de jeu, c'est-à-dire un peu de je peux modifier les rapports de force et je pense que le concept de résistance dont parle Foucault et que reprend Butler dans d'autres textes, il y a un peu cette idée que je peux retourner des dispositifs, retourner des influences, comme au judo. Je me sers de la force que l'autre exerce sur moi pour la retourner à mon profit. Hein. C'est certaines prises de judo. Finalement, j'utilise la force qui était contre moi pour la retourner à mon profit. Mais où finalement, on est partie prenante d'une même prise. Parce qu'au judo, si je fais tomber l'autre, c'est que... ou l'autre me fait tomber, c'est que je, d'une certaine manière, je coopère au fait qu'il me fasse tomber réciproquement. Bon, c'est qu'une métaphore. Hein. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler la liberté. Mais évidemment, on est loin d'une liberté, bon, d'une liberté spirituelle et intérieure, ça sûrement, mais on est même loin d'une liberté, comment dire, qui, dont le cœur serait le discernement au terme d'une délibération pour poser un choix en vue d'une finalité. Ça, dans ce sens-là, oui. Mais je pense qu'ils essayent de sauver quelque chose de l'expérience, parce qu'effectivement... alors sinon, ils tombent dans le déterminisme. Mais s'ils tombent dans le déterminisme, à quoi sert de parler de subversion, de parodie, de tout ça? Donc, la condition de possibilité de la critique, ô combien radicale qu'ils énoncent, c'est qu'il y a un minimum de marge de manœuvre. En fait, c'est ça. C'est le mot marge de manœuvre, quoi. Marge de manœuvre, ça indique bien qu'il y a, qu'on ne fait pas ce qu'on veut, parce qu'il y a des contraintes, il y a des conditionnements, mais que si on prend les choses par d'autres points de vue, d'autres perspectives, d'où le mot perspective de genre, alors ça crée du... comme le dit Foucault dans un de ses textes, hein, ça peut créer du tohu-bohu. Tohu-bohu, je vous rappelle, c'est l'état du monde, hein, dans le texte de la Genèse, avant la différenciation par Dieu des différents éléments. C'est juste après la création du monde, il y a une sorte de... l'esprit a plané sur une sorte de tohu-bohu. Bon. Et donc, on peut créer du trouble, quoi. Qui sont autant... D'ailleurs, je me demande si dans le texte qu'on va reprendre là, il n'y a pas ce mot, qui peuvent être vus comme une sorte d'interstice à travers lesquels il y a d'autres possibilités qui se créent. Mais tout est en interrelation, en fait, ça c'est sûr. Je ne sais pas si c'est clair. Oui.
Est-ce qu'on pourrait définir la théorie du genre qui combat l'hétérosexisme comme idéologie, comme une idéologie elle-même et pas juste un modèle? Et du coup, est-ce qu'on pourrait dire que, en fait, au final, ce qu'elle propose, elle devra se combattre elle-même pour une... Donc, ce serait le serpent qui se mord la queue.
Bah, c'est ça le problème du vertige qu'on peut effectivement éprouver parfois. C'est que le titre du module, c'est théorie du genre. On aurait peut-être pu dire idéologie du genre, et certains vont dire que c'est une idéologie. Je pense que, en fait, ça dépend du sens qu'on donne au mot idéologie. Ce qui est sûr, c'est que c'est dans une perspective de lutte, de subversion, puisque c'est explicitement dit, que deuxièmement, c'est une conception qui. Comment dire ? C'est une conception globale de la sexualité humaine. C'est ça qui est important aussi à considérer, parce que certains peuvent dire, bon, bah, ça touche des personnes homosexuelles, bon, à la limite, on peut les comprendre, etc. Mais là, justement, tout l'enjeu de Butler, c'est de critiquer le modèle de la différence des sexes, etc. Donc c'est pas juste... je veux me faire une place au soleil pour être ce que je suis, c'est une volonté de déglinguer ce que nous on appellerait l'ordre humain et qui pour elle est une idéologie. Et donc cet aspect effectivement totalisant a des points de similitude avec une idéologie. Parce qu'une idéologie c'est aussi assez globalisant. Maintenant, ce qui me gêne un peu dans le mot idéologie, c'est que souvent l'idéologie, elle est là pour justement instaurer une sorte de recette définitive. Et je pense que là, pour le coup, le côté libertaire et anarchiste de gens comme Foucault, Butler et tutti quanti, finalement, ils sont pas là pour instaurer un nouvel ordre au sens de ce que ça connote. Vous voyez, et que du coup, encore une fois, ils introduisent plus de la déstabilisation. Mais ce qui est encore, d'une certaine manière, est encore plus difficile à contrer, parce que c'est plus difficile à objectiver. Parce que dire, bah, nous on est là simplement pour desserrer l'étau et créer des possibles, trouvais ça plutôt sympathique comme programme, dire bah oui, c'est vrai. Oui. Mais sauf que, en fait, dans ce que ça veut dire justement déceler ce qui pour eux n'est qu'une idéologie et qui se fait passer comme étant un ordre non. Donc sous ce rapport-là, c'est peut-être moins, ça connote moins ce qu'une idéologie désigne. Mais théorie subversive, bon, ça, je pense qu'on peut le dire sans être accusé de polémiquer gratuitement. Parce que... c'est un peu, hein, comme ce que je disais hier, c'est une nouvelle manière de percevoir le corps sexué, le désir, le comportement sexuel, une nouvelle manière de voir, tiens, si on voyait les choses de ce point de vue-là, qu'est-ce que ça donnerait ? Eh bien, ça donne un paysage très différent. Allez. Sauf qu'une fois qu'on a fait ça, alors si on revient au paysage d'avant, on se dit, ah oui, mais ça, c'est un paysage parmi d'autres. Je peux bien sûr vivre comme ça. Mais bah, c'est ce qu'on voit parfois. Hein. Des gens disent, moi, je revendique mon hétérosexualité, mais ça, c'est du copier-coller inverse. Mais ça, c'est déjà piégé. Celui qui dit, moi, je vais faire la fierté hétérosexuelle. Ça, c'est justement là, d'entrer dans la perspective, justement là, d'assumer le fait que bah, c'est une conception particulière et que je l'affirme et que c'est mon droit et que voilà. Mais dès que je suis dans cette posture, ce qui peut être assez tentant, hein, je suis dans la logique de l'identité particulière et j'abandonne absolument l'idée qu'il y a un ordre humain qui ne dépend pas de moi et que je suis appelé à reconnaître et à actualiser dans mes actes. Je suis là pour promouvoir un modèle que je considère comme supérieur aux autres. Mais si on arrive à ça, et si vous remplacez hétéro par, disons, moi c'est ma conception de catholique parce que je suis catholique et que je trouve que c'est une meilleure conception, etc., on peut très bien dire ça. Sauf que dans ce cas-là, on est dans la diversité des versions, et puis voilà, c'est mon identité catholique fait que moi je vis comme ça, et puis il y a l'autre. Mais là, on a du coup totalement intériorisé, on a fait le deuil de l'objet même de l'anthropologie, d'une réflexion sur la vérité de l'être humain, qui, je crois, est au cœur de votre programme d'année. Et au moins de la recherche de cette vérité. Ça ne veut pas dire qu'on l'a comme ça dans sa poche et qu'on la possède et qu'on en est la mesure. Justement pas. On n'en est pas la mesure. Mais c'est ce qu'on cherche à saisir et à vivre. Donc celui qui dit « moi, j'ai ma petite conception portative qui est bien cohérente et j'ai mon... » On peut faire une idéologie de la théologie du corps, hein, ça c'est pas très compliqué. Il suffit de prendre tout le texte en lui donnant un statut, une sorte de bulle magnifique dans laquelle on se reconnaît, mais on dit ah ben ça c'est pour les catholiques, ça. Pour ceux qui le choisissent, mais c'est optionnel, c'est une version parmi d'autres. Si on fait ça, ce qui est assez tentant parce que c'est assez confortable, hein, on peut se dire bah qu'on vienne pas me casser les pieds, moi j'ai décidé de vivre comme ça, les autres vivent autrement, bon, c'est leur problème. Bien sûr, on peut dire ça, mais alors dans ce cas-là, on dévitalise de l'intérieur le statut même de ces textes, qui prétendent à énoncer un certain ordre humain et anthropologique. Oui. Et c'est ça la manière de lire des textes, et est-ce que j'arrive à lire un texte en respectant ou en honorant le statut qu'il se reconnaît lui-même. Oui. Et ça, alors c'est sûr que c'est moins confortable, parce que ben, je suis obligé de le confronter à mon expérience, je suis obligé de répondre sur le terrain des autres, etc. Mais il me semble que c'est ça qui est important à faire aujourd'hui. Et comme c'est plus exigeant, ben, on peut trouver d'autres chemins de traverse. Ça va, j'ai répondu ?